Bernard Palissy par Funk Brentano. Une des plus extraordinaires figures de notre histoire, et nous ne savons ni la date ni le lieu de sa naissance. Bernard Palissy naquit dans le début du XVIe siècle et sans doute en Agenais. Il était de condition paysanne, à en juger par la précision et l'amour avec lesquels, dans ses écrits, il parlera des travaux des champs. Après avoir passé ses premières années au patelin natal, nous le trouvons installé à Saintes où il demeure de 1543 à 1563, voyageant à travers les pays d'Armagnac, Béarn et Bigorre, poussant ses excursions en Vendée, en Poitou, en Touraine, se fixant quelque temps à Tarbes. Il nous y apparaît sous un double jour, artisan verrier et prédicant huguenot. Il y eut à Saintes, note un contemporain, un artisan pauvre et indigent à merveille, lequel avait si grand désir de l'avancement de l'Évangile qu'il le démontra quelques jours à un autre artisan aussi pauvre que lui et d'aussi pauvre savoir, car tous deux n'en savaient guère. Cet artisan indigent était Palissy, mais si le savoir des deux compagnons était menu, leur foi était ardente et ils répandaient ce qu'ils considéraient comme la vérité avec tant de bon vouloir qu'ils ne laissèrent pas de grouper nombre de fidèles autour d'eux. À ces convictions dont sa pensée s'était munie dans sa jeunesse, l'artiste restera fidèle sa vie entière, jusqu'à tout leur sacrifier, la fortune, son art qu'il aimait avec passion et sa vie même. Palissy a été avant tout un grand caractère, le plus ferme, le plus résolu, le plus agissant que l'on ait vu dans notre histoire après celui de Jeanne d'Arc. Et c'est par là surtout, plus encore que par ses merveilleuses qualités d'artiste et par sa magnifique intelligence, qu'il est digne de notre admiration. Après avoir quitté la charrue, Palissy s'était donc fait peintre verrier. C'est à l'art de la verrerie qu'il consacra les 10 premières années de sa vie d'artisan et que l'on peut approximativement fixer de 1530 à 1540. Le travail des verriers avait alors grande vogue, dit Palissy lui-même, à cause qu'il faisait les figures des vitraux des temples. Mais une crise survint pour les verriers dans les pays de Périgord, Limousin, Saintonge, Angoumois, Gascogne, Béarn et Bigorre, où les verres, dit notre artiste, furent mécanisés au point qu'ils étaient vendus par les villages, par ceux-mêmes qu'écrit les vieux drapeaux, les chiffons et la vieille ferraille. Palissy se mit alors à faire de la portraiture, ce qui ne veut pas dire des portraits, mais des travaux d'arpenteur et de géomètre. Ce qui est admirable, c'est de voir cet homme, sans instruction première, par la puissance de sa pensée et l'énergie de son travail, se hausser rapidement aux professions qui demandent les connaissances les plus spéciales. Comme les grands artistes de la Renaissance italienne, il en arrive à travailler aux fortifications des villes, à en tirer les plans. Pour le rétablissement de la gabelle qui venait d'être décrétée, il est chargé officiellement par les députés du roi de portraiturer les îles et pays circonvoisins des marais salants du pays. Quel chemin parcouru par le pauvre laboureur, par l'artisan indigent, que nous rencontrions au début de ce récit. Notre homme pouvait poursuivre sur cette voie une carrière qui aurait été pour lui aussi fructueuse qu'honorable quand, certains jours, la vue d'une coupe émaillée, de travail italien ou de travail antique, fut le coup de foudre qui allait faire de lui, pour son malheur et pour sa gloire, pour la gloire de son pays, la lamentable victime de ces deux impitoyables tyrans, le génie des arts et le génie des inventions. Dans l'art si difficile et si décevant de la céramique émaillée, il n'avait en France aucun précurseur. Il lui fallut tout créer, tout apprendre. « J'appris, dit-il, l'alchimie avec mes dents. » Il veut dire en mourant de faim, et il avait femme et une nombreuse famille, 7 ou 8 enfants. Les essais, les efforts, les tâtonnements du céramiste sont restés justement célèbres. Dans l'histoire de l'art, il n'y a rien de plus beau. On peut comparer le récit qu'il a fait de ses essais pour recréer l'art de la céramique émaillée à celui que son contemporain, ce hâbleur de Benvenuto Cellini, a laissé de la fonte en cire perdue de son percé de la loggia florentine. « J'entrais en besogne, dit-il, comme un homme qui tâte dans les ténèbres. Il achetait des pots de terre sur lesquels il appliquait les compositions qui devaient, à son jugement, produire l'émail désiré, cherchant surtout l'émail blanc, ayant entendu dire qu'il était le fondement de tous les autres. Il fabriquait un four où il mit à cuire ses compositions. Il ignorait à quel degré l'émail pouvait être fondu. On imagine le résultat. Il y jetait son maigre avoir, il passait des journées à piler et à broyer de nouveaux matériaux, construisait d'autres fourneaux, mais il ne se décourageait pas. Il eut alors l'idée de porter les produits de sa fabrication à cuir chez les potiers du pays. La réussite ne fut pas meilleure, car la chaleur de ses fours au petit feu n'était pas suffisante pour fondre et vitrifier l'émail. Et Palissy, tout en tristesse et soupirs, mais sans se lasser, continuait ses recherches. Pour subvenir à ses besoins et à ceux des siens, il poursuivait ses travaux d'arpenteur et, quand l'occasion se présentait, de peintre verrier. Il eut l'inspiration de confier sa fabrication aux verreries qui cuisaient ses peintures. Le feu en était beaucoup plus vif que celui des potiers. Il se trouva, au sortir du four, que sur 300 épreuves qu'il y avait mises, une seule, après 4 heures de cuisson, se trouva blanche et polie, et le malheureux, l'admirable inventeur, en conçut une telle joie qu'il lui sembla être devenu nouvelle créature. Que ce simple récit tiré de ses propres écrits du terrassier, comme il se nomme, ouvrier en terre, est donc émouvant. De quels efforts, de quelle ténacité, mêlés de larmes et d'angoisse, sont marquées les étapes de ce que les hommes appellent le progrès. Et le voilà qui se met à fabriquer ses fours lui-même sur le modèle de ceux des verriers. N'ayant pas les ressources nécessaires à payer des compagnons, il devait faire tout lui-même, détremper le mortier, tirer le nécessaire, charrier les briques et le sable, maçonner. Et dans son four, enfin bâti de ses propres mains, il enfourne ses poteries. Durant 6 jours et 6 nuits, le feu brûle, les mailles ne font pas. Il se met fiévreusement à piler d'autres matières, dont il revêt d'autres poteries. Le feu brûlait toujours. Il y met tout le bois dont il dispose, puis arrache, pour les y jeter, les treillages de son jardin, les planches enfin de sa demeure. Sa femme, autour de lui, poussait de grands cris, les enfants hurlaient, Palissy enfournait et le feu brûlait toujours. J'étais en telle angoisse que je ne saurais dire, car j'étais taré et desséché à cause du labeur et de la chaleur du fourneau. Il y avait plus d'un mois que ma chemise n'avait séché sur moi. Dans le pays, on disait qu'il faisait de la fausse monnaie et chacun le tenait en dépit et dérision. Si, de la terrible épreuve, ne sortirent pas les résultats attendus, du moins les produits en furent de nature à lui donner de définitives espérances, et ruiné, Palissy prend un aide pour le seconder dans ses travaux, qu'il rétribuera en lui donnant ses propres vêtements pour salaire. On sait le résultat de ses héroïques efforts. Palissy est le créateur des rustiques figulines dont les 3 rares spécimens font l'orgueil de nos collections et de nos musées. On les nomme figulines du mot latin figulina, qui veut dire ouvrage de potier, car il ne faudrait pas croire que ce soit une déformation de figurine, comme nos concierges disent parfois collidor au lieu de corridor. Et on les nommait rustiques à cause des sujets représentés. Palissy, en bon ouvrier de la terre de France, comme les vaillants imagiers des cathédrales, s'inspirant des produits de nos campagnes, feuillages, herbes, fruits, fleurs, poissons, coquilles et reptiles. On doit dire d'ailleurs, à l'honneur des contemporains, qu'à peine les œuvres de Palissy furent-elles mises au jour, qu'ils en comprirent la beauté et la valeur. Le connétable de Montmorency, venu à Saintes, s'en enthousiasma, fit à l'artiste d'importantes commandes pour son château des Couans. Notre terrassier est appelé à Paris, où la reine mère Catherine de Médicis et le roi Charles IX le prennent sous leur protection. Pour la reine Catherine, il fait, dans le jardin des Tuileries, ces grottes célèbres qui furent une des merveilles de l'art français, décorées de 1000 figulines en terre émaillée, des plantes, des fleurs, des batraciens, des reptiles, d'une fantaisie et d'un éclat incomparables qu'une coupable négligence, dont le trouble, il est vrai, des luttes civiles, laissa périr. Les guerres de religion sévissaient avec fureur. Les deux parties s'entre-déchiraient. L'un et l'autre recouraient également à la violence dans les régions où ils dominaient. Durant quelques années de tolérance, les réformés pénétraient dans les églises dont ils saccageaient les œuvres d'art et souillaient les autels. Et la réaction catholique redoublait de fureur. Pour soustraire l'artisan huguenot, Bernard Palissy, aux entreprises de ses adversaires, le gouvernement lui avait donné le titre d'inventeur des rustiques figulines du roi et de la reine-mère, et une sauvegarde spéciale interdisant à quiconque de connaître ni d'entreprendre sur lui ou sur ses biens. Établi au faubourg Saint-Honoré, Palissy ne se contentait pas de poursuivre la série de ses travaux d'art. Il publiait coup sur coup ses admirables livres, d'un style si savoureux, d'une pensée si originale et si profonde sur l'agriculture. Recette véritable par laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier et à augmenter leur trésor, en 1563, sur la composition de l'argile et des pierres, sur la marne, sur les eaux et fontaines, sur les métaux et l'alchimie. Il ouvre à Paris des manières de cours publics, où les auditeurs payaient pour chaque leçon un écu d'entrée, somme énorme pour l'époque et qui était fréquentée. Palissy se trouve ainsi le précurseur des innombrables conférenciers modernes. La fortune était donc venue sur le tard, car les années avaient passé, quand de nouveaux revers, produits par l'inébranlable fermeté de ses convictions, vinrent l'attendre dans sa vieillesse. Il avait échappé à la Saint-Barthélemy, 24 août 1572, grâce à la protection dont le couvrait Charles IX, mais les passions n'étaient pas calmées. Le roi devenait impuissant à les contenir. En 1588, âgé de près de 80 ans, Bernard Palissy était conduit à la Bastille. Henri III, qui avait succédé à Charles IX, se trouvait lui-même menacé par les violences de la Ligue. N'oublions pas que Henri III va être obligé de quitter Paris et qu'il sera assassiné à Saint-Cloud le 2 août 1589 par le moine Jacques Clément. Paris était entre les mains des 16, chefs violents, manière de démagogues orthodoxes, représentant des 16 quartiers de Paris. L'un des chefs de la Ligue, Mathieu Delaunay, voulait la mort du célèbre artisan, et il est certain que, traduit devant le tribunal du Châtelet, il y eût été condamné. Quelques historiens ont écrit que Palissy avait été mis à la Bastille en manière de sauvegarde, et d'autres ont raillé leur opinion. Les premiers, cependant, avaient raison. Que de fois, les gouvernements de l'Ancien Régime ne recoururent-ils pas à une lettre de cachet pour soustraire un particulier aux rigueurs de la justice réglée? Henri III vint voir le prisonnier en sa retraite, ce qui témoigne de l'intérêt qu'il lui portait. Mais Henri III fut peu après contraint de quitter silencieusement Paris et tombait sous le poignard d'un fanatique à l'époque où Palissy, âgé de plus de 80 ans, expirait sous les verrous de la Bastille. Ainsi s'achève Bernard Palissy par Funk Brentano.